Éric Tassé, bonjour.
Bonjour Bernard.
Une actualité internationale qui est quand même riche aujourd'hui. Commençons par notre Donald préféré qui s'en prend à la presse.
Mais oui, une journée
sans... C'est pas une grosse nouvelle ça, franchement.
Attends, oui, mais c'est parce que il y a la manière. Écoute, il s'en est pris cette fois-ci à Jeff Zucker, qui est le président de CNN.
Ah, OK.
Oui, parce qu'il trouve que la couverture de CNN est malhonnête, rien de moins de ça.
Alors, qu'est-ce qu'il demande?
Ah, ben, qu'il démissionne.
Il demande la démission du président de CNN?
Oui, rien de moins.
Ah, bon, mais c'est une petite journée.
Une petite journée.
Petite journée au travail.
Oui, mais hier, si je puis dire, il avait fait très fort. Tu connais un certain Carl Bernstein? Ça te dit quelque chose?
Le grand
journaliste, tu sais, qui avait été à l'origine du dévoilement du scandale du Watergate.
Avec Monsieur Woodward.
Oui, qui est révéré aux États-Unis et dans le monde, hein.
C'est un grand journaliste. Bernstein, Woodward,
ben non,
là?
Non.
Ah non?
Non. Selon Trump, c'est un fou dégénéré qui invente des histoires.
Ah! Bon, ben. Il fallait y penser.
Hein? Écoute, c'est un langage qui est tellement incroyable de la part de n'importe qui. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il fait?
Comment il a. Degenerate crazy man? Degenerate fool?
Écoute, en anglais.
Ça doit être degenerate quelque chose, hein?
Oui, un fou dégénéré.
Ouais, bon, OK.
Mais. Qui inventait des histoires. Écoute, je n'ai plus les mots exacts.
Mais ça va. Il l'a traité de débile, essentiellement. Carl Bernstein.
Mais écoute, il fait ça avec le Washington Post, qu'il accuse de répandre des fausses nouvelles. Puis tu dis, oui, mais écoute, si c'était vrai, là, ça serait facile d'aller devant les tribunaux. Tu vas devant les tribunaux, tu dis, écoutez, c'est faux, tout ça, et puis c'est systématique, mais... C'est drôle, hein? Il va jamais devant les tribunaux. Et en fait, c'est que quand on a de la difficulté, je pense, à combattre un message, ben, on tente de discréditer le messager.
C'est
tout simplement ça qu'il est en train de faire ici. Mais je pense pas qu'il faille nécessairement, tu sais, faut pas en faire une grosse affaire, mais faut pas le laisser passer.
Je sais pas, y a-t-il le droit d'être.
C'est mal posé.
Non, c'est mal posé. Est-ce qu'on peut poursuivre en justice le président des États-Unis pour diffamation? Pour attaquer la réputation.
Il y a un grand débat aux États-Unis.
Sérieux, là. Moi, là, tout le monde qui l'insulte puis qui le traîne dans la boue, là. En tout cas, s'ils peuvent pas le faire pendant qu'il est président parce que l'institution le protège, je veux dire, une fois qu'il va avoir quitté la présidence, le plus tôt sera mieux.
Oui, parce qu'il y a un grand débat aux États-Unis. La plupart des juristes pensent qu'on ne peut pas poursuivre le président des États-Unis quand il est
dommage,
en fonction. C'est protégé par sa fonction.
Oui, c'est ça.
Mais, en tout cas.
Ah d'accord, c'est ça. Voilà, on va en rester là parce que de toute façon les gens peuvent remplir les points de suspension. Parlons un petit peu de la Chine parce que évidemment les gens sentent que la Chine devient de plus en plus puissante.
Oui.
Hein? Et là, les pays occidentaux s'organisent pour essayer de faire contrepoids à cette puissance de plus en plus grande.
C'est vrai.
Hein?
Trump en a aussi parlé. Hein? Dans ses tweets de la journée, il a dit « C'est la faute de la Chine si les négociations vont mal avec la Corée du Nord parce que la Chine essaie de se venger des États-Unis qui imposent des sanctions à la Chine. » Mais il faut se rappeler que Xi Jinping, le président chinois, est un grand homme.
Ben oui.
Et les Chinois ont dit, bon, c'est pas bon. Cela étant dit, il y a quand même des gens qui travaillent en ce moment. Et effectivement, comme tu le dis, il y a un problème avec la Chine. Et on vient d'apprendre que pour contrer la Chine, les pays occidentaux allaient renforcer leur présence en Asie-Pacifique. On parle de la France, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Donc, on va ouvrir de nouvelles ambassades, en particulier dans les îles du Pacifique. On va augmenter le personnel diplomatique dans les ambassades qui existent. Et on veut contrer, en fait, la Chine, qui est devenue dans la région le deuxième plus important pays investisseur, avec 1,3 milliard, pas d'investissement, de prêts, devrais-je dire.
De prêts et de subventions.
Et de subventions,
oui.
Derrière l'Australie. Et officiellement, on dit, écoutez, c'est parce qu'on craint que les conditions qui sont attachées à ces prêts chinois soient très dures et que, en fait, ça rende ces pays dépendants de la Chine. Mais ça, c'est le prétexte. La vraie raison, c'est qu'on veut lutter contre l'influence grandissante de la Chine dans la région, qui lorgne sur les ressources naturelles de tous ces pays du Pacifique, qui veut implanter des bases militaires aussi. Et hier matin, un article du New York Times disait d'ailleurs que la Chine, grâce à ses navires, était maintenant en mesure, tiens-toi bien, de défier les États-Unis militairement dans le Pacifique et de gagner une guerre contre les États-Unis.
Ah, là, c'est le Pentagone. Ça, c'est très intéressant parce que ça en revient à la discussion qu'on a eue. Oui. C'était la semaine passée à propos de Taïwan.
Oui,
quand tu disais.
Combien de temps ils vont les défendre?
Pendant combien de temps Taïwan va rester indépendante? Parce que Taïwan est restée indépendante essentiellement parce qu'elle était sous la protection de la flotte américaine.
Exactement.
La 7e flotte américaine. Exactement. Et là, il y a le New York Times publie hier, dans le fond, un article qui dit, selon les Américains eux-mêmes, s'il y avait un affrontement naval entre les forces chinoises et les forces américaines dans le Pacifique, ce sont les Chinois qui gagneraient.
C'est les Chinois qui auraient des très bonnes chances de gagner. On peut jamais prévoir l'issue d'une guerre, mais ils pourraient gagner. Écoute, je te donne juste le nombre de navires de guerre et de sous-marins que la Chine a. Elle en a 317. Les États-Unis en ont 283. C'est la première fois depuis 1945 que la suprématie maritime des États-Unis est remise en cause dans le Pacifique. Et ce sont les Chinois qui sont en train de faire ça.
Là, on parle de navires de guerre et de sous-marins dans le Pacifique, là.
On parle de ça.
Hein?
On parle de la flotte en général.
En général?
Oui, on parle de la flotte en général. Mais la marine
américaine...
Parce
que les Américains ont quand même des sous-marins nucléaires très, très puissants.
Alors, c'est ce que j'allais dire. La qualité de la marine américaine est meilleure que la qualité de la marine chinoise. Sauf que les coûts humains et économiques d'une intervention militaire dans le Pacifique contre la Chine seraient devenus trop grands pour les États-Unis.
Je le pense. Le coût humain serait
le coût humain et le coût
économique,
économique,
c'est bien sûr.
Alors c'est pour ça qu'on dit c'est pas sûr que les et c'est ça qu'on voit en ce moment, c'est cette danse qu'on voit entre les États-Unis et la Chine qui occupe du territoire dans le Pacifique, qui construit des îlots artificiels, qui les militarise, qui dit non, de toute façon ça nous appartenait, mais qui est bel et bien en train de conquérir du territoire dans le Pacifique.
Voilà, elle est expansionniste.
Ah, totalement.
Hein, c'est une Chine de plus en plus expansionniste, puis certains vont dire avant longtemps une Chine impérialiste.
Ben je pense qu'elle l'est déjà.
Voilà.
Je pense qu'elle l'est déjà.
Et parlant de la Chine...
On se fait emprisonner en Chine pour avoir dit ça. Hein.
On se ferait emprisonner pour avoir dit ça?
Ben
pour avoir dit qu'elle est expansionniste ou impérialiste?
Les deux.
On irait rejoindre les Ouïghours,
on irait dans un camp de rééducation.
Avec les Ouïghours?
Oui.
Qui sont les Ouïghours?
Alors, les Ouïghours sont des gens qui habitent une province qui s'appelle le Xinjiang, Nouvelle Frontière. C'est la province qui est complètement à l'ouest, au nord-ouest de la Chine, une grande province désertique en grande partie.
À forte proportion musulmane.
Qui était à forte proportion musulmane, parce qu'il y a eu une migration intérieure énorme. Et en fait, maintenant, il y a plus de Chinois Han, donc des Chinois d'origine, qui sont dans cette province-là, que de musulmans.
Un peu ce qu'ils ont fait au Tibet.
Ils ont fait ça au Tibet, mais ils ont eu plus de difficultés au Tibet parce que c'est froid, puis on pouvait pas cultiver. En tout cas, c'est une autre question. Mais exactement, c'est la colonisation intérieure. C'est comme ça qu'on peut appeler ça. Or, il y a un problème en ce moment parce que ces Ouïghours sont très liés avec tous les musulmans de la région. En fait, ils se disent eux-mêmes, quand tu parles aux Ouïghours, ils disent « Ah, ben moi, j'ai un cousin en Turquie. » Ils se sentent très proches de tout ce qu'on appelle le pan-turquisme. Et ce sont des gens aussi qui sont très musulmans. Et il y a là-dedans des gens qui sont contre les Chinois. Ils trouvent que les Chinois ont occupé leur territoire. Ils n'ont pas totalement tort là-dessus.
Il y a eu des manifestations violentes.
Il y a eu beaucoup de manifestations.
De la part des Ouïghours,
absolument.
N'est-ce pas? Et ils sont d'ailleurs, est-ce qu'on peut dire qu'ils font l'objet d'une répression?
Ben, c'est ça que j'allais te dire. Ils font l'objet de plus en plus d'une répression, parce qu'il y en a aussi qui sont devenus des fondamentalistes islamistes. Et depuis des décennies, il y a des attentats à travers toute la Chine qui sont perpétrés.
Qui ne sont jamais rapportés ou non, si peu, n'est-ce pas?
Ce sont des accidents de feu d'artifice en général.
Ah oui, bien sûr.
Ce genre de choses. Mais alors là, ils sont en train de serrer la vis. Il serait 1 million dans des camps de rééducation politique. Et l'ONU, c'est pour ça que je t'en parle, a dit, écoutez, voulez-vous les libérer, s'il vous plaît? Alors, on essaie de leur laver le cerveau dans ces camps de rééducation pour en faire en sorte qu'ils soient plus
qu'ils deviennent des bons Chinois
qu'avant,
qu'ils deviennent
qu'ils
des bons Chinois
musulmans du tout.
Oui.
Pas sûr que ça donne des résultats
très probants.
Très probants.
Voilà. Loïc Tassé, merci.
C'est un plaisir.
Dans un instant, le monde de Paul Oud.